18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, quel temps magnifique. On est là pour vous réchauffer les amis, vous inquiétez pas. Il pleut, mais Les Informés sur Beurre FM, on va vous apporter du réconfort. Alors, au menu ce soir, jusqu'à 19h30, sachez-le. D'abord, merci pour votre fidélité. Et merci surtout d'une chose, c'est que vous êtes grave nombreux à nous suivre. Anthony, est-ce que tu confirmes ?
Je remarque ça tous les jours quand on est inondé au standard pour chaque
heureusement
émission.
Heureusement que c'est pas moi qui le dis. Je vous le dis les amis auditeurs.
J'ai pas reçu de billet d'Adil.
Je ne l'ai pas payé. Tu confirmes que je t'ai pas payé ?
Non, j'ai pas encore eu le cas Target.
Bon, j'ai glissé un billet de 50.
Ouais, mais bon, ça, faut pas le dire.
Non, c'est faux les amis, c'est faux. Allez, au sommaire de cette émission, vous le savez ce qui vous attend, 01 53 48 3000. Analysons, commentons et on décrypte l'actualité. On va revenir sur la Fédération Française de Football qui porte plainte. Oui, figurez-vous, elle condamne et elle va porter plainte après les injures racistes visant certains joueurs de l'équipe de France, notamment face à l'équipe d'Argentine. Honteux, insupportable, c'est les qualificatifs du gouvernement qui condamne les insultes racistes visant certains bleus. Vous savez, après l'Argentine-France, eh bien les bleus ont été visés justement par des insultes racistes. Est-ce que vous trouvez ça normal, chers amis auditeurs ? Et puis on va parler de nous. Nous, ça veut dire quoi, nous ? Nous, ça veut dire que dans votre quotidien, vous, chers amis, est-ce que vous avez déjà vécu du racisme un peu comme l'ont vécu les... vous savez, très comme ça, sous-jacent, très insigneux. On vous glisse un truc, mais on le laisse entendre, mais voilà, on ne vous le dit pas directement. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler ce soir parce que c'est très important. Voilà, le racisme dans notre quotidien, Comment vous le portez et comment vous le ménagez, surtout avec celui qui vous laisse entendre cela. 01 53 48 3000, tout de suite, là, maintenant, je veux vous entendre partout en France. Et oui, chers amis, le standard est ouvert, donc vous pouvez y aller. Ensuite, à 18h30, Le grand Pascal Boniface, vous savez quoi ? Il vient nous parler de ce bilan géopolitique de la Coupe du Monde, justement. Et ça, c'est bon. Parce que Pascal Boniface, il y était. Il était là-bas, sur place. Il nous a fait vivre. Voilà. Ben, on va en parler avec lui. Ensuite, après, deux débatteurs influenceurs, Pierre-Henri, Ménad ou Chénir. Deux personnalités qui viendront confronter leur point de vue sur 3-4 sujets. On reviendra sur ce racisme, le foot, le Qatar. On reviendra sur la SNCF, la grève. Emmanuel Macron qui tape une colère et puis Olivier Véran qui demande aux grévistes de renoncer et d'entendre les usagers, les voyageurs. Donc en gros, tendez l'oreille. Nous allons parler aussi, vous savez quoi ? Eh bien du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a réitéré aujourd'hui dans une tribune dans le journal Le Monde ses priorités pour l'école et l'égalité des chances. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le niveau justement quand on parle d'égalité des chances ? Oui, parce que ça fait un peu plus de 30 ans, je vous le dis, qu'on perd un peu le niveau de l'éducation nationale. C'est une réalité, c'est un constat, c'est une chute, c'est vrai. On reviendra aussi sur Poutine. Alors, Zelensky est invité et convié par Joe Biden aux États-Unis. Clochette. Pourquoi je dis clochette ? Parce que jusqu'ici, tout va bien. Sauf que de l'autre côté, eh bien, vous avez Poutine qui, lui, fait cette déclaration suivante. Vous voulez mener une guerre indirecte. Il dit ça à Joe Biden. Je vous avoue que 2023 ne va pas être tendre. J'ai le sentiment, quand même. Allez les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les auditeurs ont la parole, c'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Ah ouais, c'est sport pour Anthony Lowe, notre réalisateur. Il était déjà en train de... Oh, il était... Vous savez quoi, le pauvre, il souffrait. Ça appelle, hein ?
Oh, bah on s'y habitue, hein. Écoute, là, tu confirmes. Prendre. Ah oui, là, je confirme. On a,
il était au standard. Il était à la,
la
manette.
Rien.
Il était en train de lancer la clochette. Il était pas... Voilà. Non, mais c'est là où on reconnaît un génie, le génie, plutôt la patte du réalisateur. Allez, c'est parti, je vais recevoir direction Valence. Redouane, bonsoir Redouane.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir, bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Redouane ?
Je suis chauffeur routier.
Ça se passe bien ?
Ça va, nickel, je transporte du gaz.
Du gaz.
Donc, je suis dans l'actualité, on va dire, entre guillemets.
Ah bah là, vous êtes en pleine actu. Hein. Allez, on vous écoute, Redouane, le racisme, le foot, vous-même, tout ça. Parlons-en, il faut qu'on en parle, il faut qu'on mette les pieds dans le plat. Allons-y.
Bon, déjà, pour commencer, moi, je suis footballeur amateur.
Oui.
Donc, je joue dans mon club de quartier à Valensole.
Ouais. En CFA ?
Donc, comment ?
CFA ?
Non, 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 c'est un peu plus bas le niveau, c'est en division 2.
En division 2, c'est bien, c'est déjà pas mal, c'est bien, bravo.
Ouais, voilà, ça reste du loisir, entre guillemets.
Ouais, c'est du loisir. Bon.
Et donc, voilà, après moi, je voulais parler du racisme, parce que on a souvent été confrontés, en jouant à l'extérieur, à ce type de raciste, de racisme qu'on a pu voir, tout le long à la fin de la Coupe du Monde, quoi.
Alors, ça m'intéresse, Redouane, c'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que, les cris en dehors du terrain, tout ce qui est supporter et tout, ouais. Ça date pas d'aujourd'hui, quoi.
Ouais. C'est pas insupportable quand vous dites en fin 2022, on est dans quelques jours 2023, et on se dit, il y a encore, évidemment, ce problème concernant ce fléau concernant le racisme qui persiste encore.
J'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a des gens qui sont pas, qui sont restés focalisés sur ce qu'ils entendent à la télé ou à la radio, hein, donc voilà, ils ont pas, je pense pas qu'ils ont vu des Arabes, ouais, et des Noirs en face d'eux pour.
Mais vous avez vu les qualificatifs employés par les Argentins, les joueurs argentins à l'égard de quelques joueurs là. C'est horrible, franchement.
C'est du racisme.
Qu'est-ce que c'est horrible. J'ai même pas envie de dire les termes qu'ils ont lâchés, franchement. Tellement ça me fait mal au cœur.
Après, je les ai entendus. Hein. C'était sale négro. C'était.
C'est horrible. Entendu, moi, je te mets une patate. Hein, sérieux, tu dis ça, mais comment. Enfin, je dis ça à l'antenne.
Après, comme.
J'appelle pas à la violence. Hein, attention. Hein. C'est pas la violence que la violence.
Choqués, mais comme t'ai dit, nous, dans le foot, ça fait des années que ça existe, ce genre de comportement. Hein. C'est pas la première fois que.
Faut pas mettre de patates, il faut simplement condamner, et puis surtout agir, et puis surtout porter plainte.
Ouais, bien sûr, je comprends, après ça, c'est sûr. Mais après, quand on est dans un stade et on peut. Vous voyez, avec les supporters qu'il y a, c'est dur de se poser des questions, de se dire quand on va porter plainte ou. Voilà, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Après, mais voilà, après c'est juste pour vous dire, voilà, ça date pas d'aujourd'hui.
Donc vous continuez de le vivre, vous, hein, vous en tant que footballeur amateur, vous continuez de le vivre.
Ah ouais, je continue juste.
Comment vous le vivez d'ailleurs? Comment vous le vivez?
Déjà, nous l'année dernière, on a arrêté un match en plein cours pour propos racistes. Donc,
c'est bien. Dire, bravo. Bravo.
L'arbitre nous a suivis, donc on a arrêté le match et ensuite par le biais de je sais plus quel organisme, on a réussi à gagner ça juste par rapport à qu'il y ait eu des propos racistes.
Oh là là.
On a gagné ce match.
Ah, vous l'avez, ouais, en arrêtant le match, vous avez condamné, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. En plein match, il y a eu. Nous, on a des Blacks et des Arabes qui jouent chez nous. Hein. Moi-même, je suis arabe. Donc, et voilà.
Non, c'est grave. C'est grave.
Il y a eu un supporter qui a eu un propos raciste et l'arbitre a décidé d'arrêter.
C'est grave. Vous avez raison, Redouane. Bravo. Voilà.
Merci en tout cas de m'avoir écouté. Hein.
Bah écoutez, c'est normal, c'est le lieu.
Bon courage en tout cas. Hein. Et dédicace à Valençal, hein, c'est mon club. Hein.
Bah allez-y, n'hésitez pas, on salue votre club.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée, mon cher Redouane, portez-vous bien.
Allez, tiens.
Ciao. On va aller à Toulouse, on va accueillir Nadia. Nadia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadia, ma chère Nadia?
Alors, je suis chauffeur de bus.
Chauffeur de bus, tiens. Il est vraiment rare de voir des chauffeurs femmes.
Ah bon?
Bah, moi, j'en vois rarement, moi. En tout cas, peut-être à Toulouse, c'est. Moi, à Paris, j'en vois pas beaucoup. Si? J'en vois pas beaucoup. Anthony, vous en voyez?
Il y en a peut-être. Ça dépend.
Ouais, bon.
Ça commence à se féminiser.
Bon, c'est bien. Il faut faire sa place.
Oui, après, je m'en plains. Je m'en plains pas.
Nadia, vous vivez comment? Parlons de racisme, justement.
Alors, moi, je ne vais pas vous parler de foot parce que bon, je le vis quotidiennement au travail, je vous le dis. C'est par rapport à ça. C'est souvent, c'est des connotations comme. Ils ne comprennent pas que nous, on est nés ici, on a grandi ici, donc on arrive à décoder leur code quand ils commencent à parler. Les messages subliminaux. Ouais. Et quand je commence à dire, non, mais attends, là, c'est raciste ce que tu dis. Mais non, mais je rigole.
C'est vrai, vous avez raison, Nadia. C'est vrai.
Mais non, mais je plaisante.
C'est toujours, non, je plaisante. Mais comment ça, vous plaisantez?
Voilà, la dernière fois, c'était une blague à deux balles. Et mon manager, ça l'a fait rire. Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout.
Non, vous avez raison, Nadia, il ne faut pas laisser passer.
Il y a un collègue qui racontait une blague. Et la finalité de la blague, c'était les Arabes, c'est des voleurs. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est quoi ces stigmates?
Les Arabes, c'est des voleurs. Franchement, c'est un propos raciste.
Et mon clairement. Manager...
La loi, elle est là pour condamner, Nadia, il ne faut pas l'oublier. Hein. La loi, elle est là pour condamner.
Là, je suis en pleine guerre avec ma direction parce que j'ai dénoncé ça et ça ne plaît pas. La dernière fois, un matin, je veux prendre mon service, donc je parle à mon chef. Je lui dis, ça va, ce matin, il n'y a pas trop d'absents. Monsieur, il est irrité. Alors, il était d'une colère parce qu'il y avait un chauffeur qui avait cassé un bus. Mais il a cassé le bus, c'est matériel. Comme je lui ai dit, c'est matériel. Je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, c'est embêtant. Il me dit, oui, mais tu te rends pas compte. Mais non, lui, ça le dérange. Il s'inquiétait pas pour le chauffeur. Il s'inquiétait. En plus, comme il était d'origine maghrébine, donc ça le dérangeait énormément, mais il voulait pas me dire devant moi. Ouais. Et à un moment donné, j'ai essayé de changer, d'apaiser les tensions. Et je lui dis, ça va, il y a pas trop d'absence. Il me dit, il y a l'autre bougnoule qui est pas venu ce matin.
Non.
L'autre bougnoule.
Ça, il m'a dit l'autre bougnoule. On entend encore des propos comme ça, le bougnoule.
Eh oui.
C'est choquant.
Quand mon chef, je lui ai dit, c'est irrespectueux comment tu parles, il a fait la musique.
J'aurais pas dit c'est respectueux, il a dit c'est raciste, tout simplement.
Moi, si ça tiendrait qu'à moi, je parlerais autrement. Mais comme c'est mon supérieur, donc j'ai préféré me retirer.
Non, vous, Nadia, restez dans les clous. C'est-à-dire que restez, évidemment, dans le cadre qui vous convient. Il ne faut absolument pas déraper. Bah, en revanche, ce que vous faites, c'est-à-dire alerter la hiérarchie via, je ne sais pas comment vous le faites, vous faites des mails, vous l'actez comment ?
Alors, j'en ai parlé au délégué du syndicat, du personnel, pardon. Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Mais non, mais pour le loin du monde, il est méchant. Je sais que quand il manque des chauffeurs, il devient exécrable. Mais il l'a dit sur le moment de la colère, mais il ne le pensait pas.
Et il a peur,
qu'il le pense ou qu'il ne le pense pas, je ne suis désolée, il n'a pas parlé comme ça. Je lui dis, tant qu'à faire, il ne veut pas aussi nous dire, tiens, bougnoule, avec un fruit aussi, bande de salarab, venez travailler. En attendant, la plupart des chauffeurs, c'est des maghrébins. Hein.
Ouais.
Je lui dis que ça lui plaise, oui ou non. En attendant, ils sont bien contents de nous trouver. Hein.
Ça, c'est vrai.
Ça m'a fait très, très mal. Je me sens impuissante. Je vous dis, je me sens impuissante parce que j'ai l'impression
Si vous me dites que le syndicat s'y met aussi, il y a un problème.
Oui, mais là je suis en arrêt. Là, je vais reprendre là, début janvier. Et puis là, je peux vous dire que ça va chauffer dans la boîte. Hein. Parce que je ne vais pas partir comme ça. Hein.
Ouais, mais attention, Nadia, je vous donne un conseil quand même. N'y allez pas toute seule. Hein. Faut être armée. Hein. Faut des mails, faut laisser des traces écrites.
J'ai laissé une trace écrite à ce monsieur en lui disant que ce qu'il avait dit, ses propos, c'était puni par la loi. Il ne m'a jamais répondu. Il fait l'amnésique. Je vous dis, il fait l'amnésique.
Mais il ne peut pas, il est embarrassé, il ne peut pas vous répondre. Il va répondre quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde ? Il n'a rien à dire. Il est embarrassé. C'est normal, Nadia.
Et comme c'est... je suis désolée de le dire...
N'allez pas perdre votre emploi non plus, hein, Nadia.
Mais de toute façon, je ne souhaite pas rester dans cette société parce que quand je vois les chauffeurs, comment ils parlent, à caractère raciste... Mais ça les fait rire. Mais je vous dis, ça les fait rire.
Ouais, c'est horrible.
C'est des trucs qu'on n'a pas pour eux.
Non, c'est honteux. C'est insupportable.
Je parle comme ça.
Je suis d'accord avec vous, Nadia. Mais je vous sens énervé, je vous sens agacé, je vous le sens.
Parce que certains autochtones, parce qu'ils se prennent pour la suprématie, quand on les écoute, eux, ils ont un cerveau. Comme j'entends dans les médias que soi-disant, eux, ils ont des idées. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Mais quel genre d'idées, hein ? Parce que franchement, pour parler comme ça, c'est vraiment petit. C'est petit. En attendant, ils sont bien contents de trouver le continent africain.
Ça, c'est vrai, je vous l'accorde.
Pour les richesses. Hein.
Ouais, je vous l'accorde. C'est vrai vous avez dit une phrase très juste, c'est-à-dire qu'ils sont bien contents, effectivement, de trouver des franco-maghrébins qui assument le rôle de chauffeur pour assurer, évidemment, les transports au sein de la ville de Toulouse.
Oui, parce que regardez, la plupart des chauffeurs, comme vous me disiez, que vous voyez pas...
À Paris, c'est pareil, je vous rassure.
Mais la plupart, moi, quand je vais en région parisienne, c'est des gens des maghrébins, des gens de couleur. Ils sont bien contents de nous trouver. Hein. C'est grâce aux gens ici de l'immigration. Hein.
Bon, Nadia, merci d'être intervenue. Je sais que c'est pas simple de témoigner. Vous l'avez fait, vous êtes courageuse. Mais surtout, ne lâchez rien.
Merci, c'est très gentil. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, Nadia. Prenez soin de vous. Ensuite, après, il y a pas mal d'appels. Hein. Il y a Youssef de Montpellier, Hassan de Lille... Laïla de Saint-Etienne, on fait juste une courte pause. Et vous savez quoi ? Je vous retrouve tout de suite. 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h-19 précisément dans Les informés. C'est vous qui faites évidemment l'actualité. Allez, Hassan de Lille. Hassan, bonsoir Hassan. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Hassan ?
Bonsoir Adil, je suis ingénieur.
Ingénieur, quel domaine ?
Génie climatique.
Ah c'est bien, en ce moment-là. Ouais. On vous écoute Hassan, alors le racisme ?
Alors bah, écoute, le racisme, il existe...
Vous avez entendu Nadia tout à l'heure ? C'est terrible. Hein ?
Comment ?
Vous avez entendu Nadia de Toulouse ?
Oui, c'est vrai que c'est impressionnant.
Ouais,
mais après, le racisme est aussi lié un petit peu à... on va dire, à une certaine hiérarchie. C'est-à-dire que quand on est d'origine maghrébine et qu'on prend des postes à responsabilité, ce qui arrive très souvent, c'est que ça peut gêner certaines personnes.
Ça.
C'est-à-dire qu'un maghrébin qui est sur, on va dire, au plus bas de la hiérarchie dans une entreprise, ça passe.
Oui.
Par contre, dès qu'on se retrouve avec un noir ou un maghrébin à prendre des responsabilités, là, ça coince chez certains.
Mais pourquoi ça coince c'est quoi les raisons qui sont évoquées, Hassan?
Ben, c'est parce que, à mon avis, ce que je pense, c'est que depuis toujours, en fait, l'image des Maghrébins, c'est l'image de l'ouvrier. L'ouvrier des années 70 en France. Donc en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des Maghrébins en France, la première vague qui est arrivée en France, c'était pas une vague intellectuelle, c'était plutôt une vague manuelle qui était là pour reconstruire la France.
Oui.
Et du coup, c'est resté dans les mœurs, malheureusement.
Ils ont pas
vu. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, la nouvelle génération qui arrive avec des diplômes, des personnes à forte compétence qui soient, ça peut gêner certaines personnes qui ont encore ces mentalités d'avant, quoi.
Et ça, dites-moi, justement, ils s'y attendaient pas. C'est peut-être parce que ça gêne, justement.
Ah oui. Non, mais ça, c'est sûr. C'est ça gêne. Même si tu as les compétences, de toute façon, aujourd'hui, c'est prouvé, un maghrébin qui a un diplôme ne lui suffit pas pour avoir un poste à sa hauteur. Il faut qu'il fasse plus pour avoir...
Par exemple, Hassan à Lille, est-ce que vous avez été confronté à cela, c'est-à-dire à savoir, au moment où il fallait vivre une promotion, est-ce que vous l'avez vécu?
Totalement. Ben, totalement.
Puisque vous êtes ingénieur, normalement, vous êtes amené à... grandir dans la boutique.
Justement, pourquoi je suis arrivé ingénieur, c'est parce que à l'origine j'étais technicien. J'étais technicien en bureau d'études, technicien projeteur. J'avais des collègues d'origine française, de souche française, qui ont réussi à avoir en fait un statut d'ingénieur maison au sein de la société.
Oui.
Alors qu'ils n'étaient pas forcément plus intelligents ou de meilleures compétences que moi.
Oui.
Alors, ce qu'il a fallu que je fasse, moi, pour justement obtenir un poste d'ingénieur, il a fallu que je démissionne, que je reprenne mes études, que je fasse une formation d'ingénieur, d'accord ? Et une fois que j'ai été diplômé, j'ai pu prendre possession d'un poste d'ingénieur.
Oui, oui.
Mais avec mon nom, avec mon profil, j'aurais jamais pu avoir un poste d'ingénieur maison.
Oui.
Voilà, donc ça c'est une...
Vous savez quoi? Attendez, Hassan.
Je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce
justement, Hassan, j'ai Ménad, oui. Ménad Ouchenir qui est sur le plateau, qui va intervenir dans une poignée de minutes. Je vais lui ouvrir le micro. Bonsoir Ménad.
Bonsoir Adil.
Vous étiez en train de me dire que vous-même, vous avez été confronté à ça, et que ça, c'est le plafond de verre.
Très souvent, effectivement, moi-même, mais aussi dans mon entourage, à qualification égale, naturellement, il y a forcément des critères très subjectifs qui rentrent en ligne de compte dans les progressions de carrière. Donc, naturellement, chez les personnes issues de l'immigration, on parle des Maghrébins, mais on parle aussi nos amis d'Afrique subsaharienne ou même asiatique. Hein, c'est vraiment la même chose, très souvent.
Et on finit par monter sa boîte.
Et alors, même, j'ajouterais double peine pour les femmes. Une femme d'Afrique subsaharienne, issue de l'immigration de l'Afrique subsaharienne, à compétences égales, va avoir beaucoup plus de mal. Et on voit aussi de plus en plus ce phénomène aussi, parfois, avec certaines femmes qui veulent, par exemple, là aussi, avoir le voile dans leurs fonctions, etc., ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec leur métier, se voir interdire ou empêcher de pouvoir exercer librement leur religion. Alors, dans les pays anglo-saxons, pour travailler avec des Anglais, pour avec des Américains, vous avez des sikhs avec des turbans.
Exactement.
À Londres, et vous voyez normal. Des femmes voilées à la caisse ou conseillères de vente sans que ça ne porte aucune question.
Hassan, justement, vous avez jamais eu, ça vous a jamais traversé l'envie de monter une boîte?
Si.
Parce que souvent les ingénieurs, ils montent leur propre boîte, hein, souvent.
Ouais, mais
et avec un certain succès.
Est-ce que c'est la solution pour être intégré?
Non, c'est pas la solution.
Non.
Alors, il est mitigé, Ménade. Pourquoi vous êtes mitigé, Ménade ?
Je suis mitigé parce que si il n'y a pas 36 façons de faire changer, surtout dans le monde économique, de faire changer les mentalités, c'est par l'exemple et l'influence. Et comment ça se passe ? On monte des boîtes où on applique les valeurs qu'on veut voir, qu'on aurait souhaité nous retrouver dans d'autres entreprises. On va se rendre compte que la performance économique de ces boîtes, puisque c'est du business, hein, tout ça, on va se rendre compte que la performance économique des boîtes montées par des personnes qui n'ont pas trouvé leur place, on va dire, dans les boîtes les plus anciennes, sont bonnes, bah, ça va influencer le marché positivement dans ce sens-là. Voilà. Je pense que, pour moi, ce n'est pas une lutte au sens frontal du terme, ouais. C'est plutôt une quête d'influence à aller chercher, mais très compliquée.
Hassan, j'ai juste envie de vous dire une chose, ne lâchez rien.
Ouais. Bah, de toute façon, je ne lâche pas.
Il ne faut pas lâcher, J'avais Laïla de Saint-Etienne, elle a disparu, Laïla de Saint-Etienne. Ça m'aurait intéressé de connaître son point de vue. Vous allez tôt ou tard, évidemment, exploser le plafond de verre, mon cher Hassan.
J'espère.
Ben oui, il ne faut rien lâcher dans la vie. Hein. Il faut être exemplaire, c'est vrai. Bon, après, voilà.
Il y a deux ans de ça, j'ai une petite anecdote. Hein. Il y a deux ans de ça, j'avais un de mes collègues au travail qui était venu me serrer la main en me souhaitant bon anniversaire, c'est jour de fête pour toi. Alors, j'étais un peu intrigué parce que c'était pas mon anniversaire, je comprenais pas. Donc du coup, je suis retourné le voir, je lui ai dit, je comprends pas je comprends pas pourquoi tu me souhaites bon anniversaire alors que voilà, c'était mon anniversaire.
Pardon.
Il me dit, aujourd'hui c'est le 11 septembre.
Mais ça, c'est du racisme, ça.
Bon, racisme ordinaire.
Donc ce que j'ai fait directement, j'ai compris que c'était pas du tout de l'humour, mais c'était vraiment une attaque.
C'est incroyable, ça.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir directement donc mon directeur. Ouais. Il a été convoqué, puis il a pris un blâme.
Bah heureusement qu'il a pris un blâme.
Oui, minimum.
De quel droit il se permet de vous dire bon anniversaire le 11 septembre ? Il s'adresse à vous. Vous êtes responsable du 11 septembre ? J'aime bien. Tous les Arabes sont responsables du 11 septembre. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ce racisme qui se banalise, ordinaire. Merci à Hassan d'être intervenu.
Bah de rien.
Ce cas de figure que vous venez de dire, évidemment, décrit que la lutte est encore, évidemment, pour tout le monde d'ailleurs. Pour tout le monde. Hein.
C'est très loin d'être fini. De toute façon, cette Coupe du Monde, on l'a très bien compris.
Les joueurs qui sont insultés, mais c'est horrible ça. Honteux.
Les Argentins, après, il faut savoir un petit peu l'origine des Argentins. Savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de nazis qui ont migré là-bas en Argentine pour fuir justement, tout ce qui était procédure pénale par rapport à la guerre. Quoi. Et en Argentine, aujourd'hui, on trouve pas, quasiment pas, de Noirs ou d'Africains.
Très peu, très peu. Y compris au sein de leur équipe, on leur a reproché.
Tout à fait.
Merci Hassan. Je vais accueillir Jamel de Paris. Bonsoir Jamel.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jamel ?
Je suis chauffeur routier.
Ça se passe bien ?
Je suis chauffeur routier.
Oui, ça se passe bien, Jamel ?
Ouais, ça va. Franchement, bon. C'est
on vous impeccable. On vous écoute sur le sujet du racisme.
Je voulais intervenir par rapport à ce qui s'est dit. J'ai écouté un petit peu ce qu'il disait le collègue juste avant.
Oui.
Moi, je trouve que de plus en plus, ça a toujours été depuis, j'ai vécu pas mal de trucs de racisme. Mais bon, on va dire, nous encore, c'est pas grave. Mais moi, je voulais intervenir sur le racisme qui s'est fait sur Benzema en équipe de France.
Ah, ça aussi. Hein.
Moi, je trouve que. C'est un truc de fou, quoi.
Mais ça commence à balancer sur les coulisses là, de l'affaire Benzema. Ça commence à balancer.
Moi, je trouve que c'est du racisme pur et dur à l'encontre de Benzema.
Ouais. Bon. Bah, merci, Jamel, d'être intervenu.
Merci. Hein. Je voulais intervenir sur ça. Merci.
Et vous avez raison. Bonne soirée. Merci à vous aussi. prenez soin de vous.
À vous aussi, au revoir.
Razika, restez avec moi, Razika, parce que je vais vous prendre dans une bonne minute. C'est Pascal Boniface et son billet d'humeur. Je veux vous saluer d'abord, Razika. Rassiba.
Bonsoir.
Rassiba,
pardon. Alors, c'est Rassiba, oui.
Rassiba. Donc, Rassiba, restez avec moi ou je vous récupère juste après le Quoi de Neuf. C'est parti, le jingle. Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec le grand Pascal Boniface, le président fondateur de l'IRIS. Bonsoir, Pascal Boniface.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous ? Un plaisir que vous soyez avec nous.
Eh ben, très bien, plaisir partagé, comme
j'ai,
ça que dit.
J'ai vu que vous avez vécu un excellent moment dans l'un des plus beaux stades à Doha, au Qatar. Vous avez soutenu l'équipe de France.
J'étais invité par la Fédération française de football. Je suis allé voir la finale et c'était un ascenseur émotionnel avec bien sûr, la déception de la défaite. Enfin, c'est pas une défaite puisque c'est match nul, mais on n'a pas l'étoile. Ce sont les Argentins qui l'ont, mais quel match.
Ouais.
Avec deux matchs, un peu en 110 minutes, on s'est un peu fait chier, quoi, pour bien le lire.
Mais justement, et ce soir, votre billet d'humeur, on va faire un bilan géopolitique sur cette Coupe du Monde.
Oui,
on vous écoute,
tout
justement.
À fait. Et j'aurais envie de vous poser une question. Est-ce que vous voyez un rapport entre la guerre en Ukraine et le mondial au Qatar?
Non, absolument pas.
Pas évident.
Non,
mais en fait, il y a quelque chose de commun. C'est dans les deux cas, il y a l'Ouest contre le reste.
Ouais.
Parce que la guerre en Ukraine, bah, tous les pays occidentaux veulent sanctionner la Russie. Les autres disent, oh, écoutez, c'est pas tout à fait notre problème. Voyez ça entre vous. Le mondial au Qatar, dans les opinions publiques ou dans certains relais médiatiques, on voulait boycotter le mondial, mais c'était que dans les pays occidentaux. Dans aucun pays latino-américain, asiatique ou africain, on ne voulait boycotter. Et en fait, au contraire, ces menaces de boycott, qui, il faut bien le dire, a dit, n'ont pas été extrêmement efficaces. On s'en est rendu compte du fait des audiences.
Millions, oui, il n'y a pas de boycott. Hein.
Oui, voilà. Bon. Sont plutôt venus solidifier le soutien aux pays organisateurs de Qatar, parce que même les pays arabes qui ont des difficultés avec le Qatar, les Saoudiens, les Émiratis, se sont dit, non, là, en fait, c'est le Qatar qui est attaqué comme pays arabe et on va donc tous le soutenir. Également, unité du monde arabe autour de l'équipe du Maroc.
Ah, ça,
alors, quand je dis monde arabe,
unité mondiale,
ça, je sais qu'il y a des Berbères, des Kabyles, etc. Mais
oui,
en fait, le Maroc est devenu le représentant à la fois du monde arabe au sens large et du continent africain en étant la première équipe à atteindre les demi-finales. Et ceci d'ailleurs rend encore un peu plus sensible et injuste l'attribution de la Coupe du Monde en 2026, non pas au Maroc, mais aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en fait, réalité aux États-Unis, parce que Donald Trump avait menacé les pays qui ne voteraient pas pour lui de sanctions, fait unique dans l'attribution de la Coupe du Monde. Et puis donc, on a vu effectivement la géopolitique, et bien ce match, les Saoudiens ont été la seule équipe à battre l'Argentine qui allait gagner la compétition. Et donc on a vu aussi pour la première fois les cinq continents représentés en huitième de finale. Donc on voit, c'est la poursuite de la multipolarisation du sport. Et finalement, ce mondial, bah, il s'est très bien passé. Certains disaient qu'il se passerait mal. Il n'y a pas eu une seule bagarre. Et même si on peut avoir un regret éternel de ne pas avoir cette troisième étoile pour la France, ça a été une très belle compétition avec, en plus, ce match Iran-États-Unis, l'équipe iranienne qui à la fois proteste contre le régime et les Iraniens qui estiment qu'elle ne proteste pas suffisamment pour le régime. Donc, il y a eu de la géopolitique à tous les étages dans ce mondial parce que, évidemment, le football, c'est plus que du football et le football, c'est également de la géopolitique.
Je voudrais vous dire deux choses. Bravo d'abord pour ce billet d'humeur, excellentissime. Bravo, mon cher. Je reconnais toujours votre plume. Et puis, comme on est, tous les soirs d'ailleurs, de plus en plus nombreux sont les auditeurs qui partagent donc l'audience et qui sont là présents entre 18h et 19h30, j'aimerais qu'on rappelle, vous savez quoi, c'est le moment de faire des cadeaux. Votre ouvrage Géostratégie.
Ah, oui. La BD que j'ai faite avec Toby, oui, c'est un peu l'histoire du monde depuis 40 ans.
C'est beau, ça, hein.
Et ça marche très bien et tout le monde dit c'est vraiment le beau cadeau à glisser sous le sapin parce que c'est de la pédagogie en s'amusant. On a essayé de ne pas être rébarbatif, d'être plutôt dans l'humour.
On lâche tout, on le trouve où ?
Ah, partout. Il y a une troisième.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom et l'édition ?
Alors, Géostratégique, c'est chez Dunographique avec Tommy le dessinateur. Et votre serviteur.
Chers amis auditeurs, allez vous le procurer, allez l'offrir, allez même pour vous-même d'ailleurs, parce que c'est bon de l'avoir. Et puis vous allez beaucoup apprendre, notamment. Pascal Boniface, semaine prochaine, c'est la trêve, c'est un peu les vacances, donc je vous souhaite de passer de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée, si vous voulez bien.
Et bien avec grand plaisir, tout début janvier.
Tout début janvier, partagez, et puis je vous souhaite surtout de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, mon cher Pascal Boniface.
Merci à vous, Adil, et merci aussi, et bonne fête à tous les auditeurs.
Merci, vous savez que vous êtes très suivis, hein, chez... On a beaucoup de retours vous concernant. Donc, si vous voulez leur dire un mot, c'est le moment.
Ça fait chaud au cœur, merci à tous. Et votre soutien me fait chaud au cœur et me permet de passer certaines difficultés. Mais en tout cas, c'est les messages de sympathie que vous m'envoyez, vraiment, c'est la plus belle des récompenses.
Merci à vous, Pascal Boniface, on vous embrasse. 18h34, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve avec Rassiba du 92, 01 53 48 3000. On continue de parler de racisme, de football, mais également aussi de votre quotidien. Comment vous le vivez? À tout de suite, ne quittez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, on va prendre quelques auditeurs encore avant de retrouver le face-à-face, 18h42. J'ai promis un Rassiba du 92, mais Rassiba du 92, quelle ville du 92, Rassiba?
Rueil-Malmaison.
On a un débatteur ici qui est souvent le vendredi, tiens, c'est Rafik Temgari. Il est adjoint chez vous dans la mairie.
Ah bah, enchanté, monsieur bon. L'adjoint.
Rassiba, on vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Alors, dans la vie?
Je suis technicienne opératrice pour Enedis. Donc je travaille dans le monde de l'électricité.
Bravo. On vous écoute.
Moi, plutôt qu'une question, j'avais plutôt un constat à faire. Je suis une femme voilée, donc je travaille avec un turban au travail. Mmh. J'ai toujours travaillé avec un turban, puisque c'est un petit peu mon plus sur le CV. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que systématiquement, la femme musulmane, globalement, puisque femme musulmane n'est pas égale à arabe forcément, on peut être française, on peut être africaine, on peut être maghrébine.
Oui, très juste.
Très éparse. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que systématiquement on revient sur le devant de la scène politique. On a des débats chaque année sur le burkini. Si on veut pratiquer un sport, on nous prend la tête. Si on veut travailler avec notre voile, on nous prend la tête. Et à contrario, on va dire les femmes maghrébines, les femmes issues de l'immigration, pour parler au sens large, ne veulent pas travailler, veulent toucher les aides sociales. Donc, en fait, je ne comprends pas. On est dans une société patriarcale qui défend la femme iranienne, qui défend la femme afghane. Par contre, la fille qui est née en France, qui a fait des études, puisque moi j'ai fait des études, en l'occurrence un bac plus 3 en génie civil, je n'arrive pas à trouver du boulot dans mon secteur d'activité. Parce qu'on m'amène souvent sur le terrain de « oui, mais t'as le voile, tu comprends, on peut pas embaucher une fille avec un foulard sur la tête ». Je ne suis pas qu'un voile, je suis une femme.
Alors,
libre arbitre.
Alors, Ménad,
voilà, je voudrais bien qu'on arrête de nous prendre la tête. Parce
Mais vous avez raison, vous avez raison. Ménad, est-ce que vous avez peut-être esquisser peut-être quelques pistes de réflexion?
Des pistes de réflexion, je peux en esquisser, mais ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que en France, c'est un sujet, alors que ça ne devrait pas en être un, ce qui n'est pas le cas, notamment dans les pays anglo-saxons. Et puis moi, il y a une chose aussi, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que effectivement, chaque année, pour parfois un peu détourner l'attention d'une autre actualité, on sort des débats sur le voile, le burkini, au choix, etc. Mais moi, à chaque fois, je suis étonné de la sous-représentation des femmes voilées, donc les premières concernées, sur les plateaux télé et les plateaux radio, puisqu'on voit beaucoup de monde qui en parle, hein, des gens tout
c'est
fait,
vrai, quand on parle des femmes voilées, on ne voit jamais des femmes voilées.
Mais on en voit, alors il ne s'agirait pas d'avoir que ça autour de la table, mais d'en avoir.
Un déjà.
Et il y a très très peu, il y a Cyril Hanouna qui l'avait fait.
Il est le seul.
Je crois que c'est le seul, ouais.
C'est le seul.
Ouais, donc bravo. Mais d'une manière générale, on en a très très peu sur les autres plateaux, alors qu'effectivement, c'est les premières concernées.
Oui,
ça
Rassiba.
Devrait être pareil sur les autres sujets.
Oui. On est les premières concernées parce qu'on parle de nous-mêmes. Et puis surtout, moi, pour avoir été dans des associations dites féministes qui défendent les femmes battues, etc., en tant que bénévole, je ne comprends pas pourquoi des femmes défendent des femmes battues, des femmes qui sont mises de côté par rapport à leur situation sociale, mais qu'à côté de ça, quand c'est une femme voilée, c'est oui, mais non, on ne peut pas défendre les femmes voilées, ce n'est pas des femmes qui sont représentatives du féminisme. En tout cas, pour moi, le féminisme, c'est un courant politique. Qui n'est pas représentatif de 99,9% des femmes. Ce qui serait bien, ce serait nous demander notre avis et puis nous laisser vivre. Parce que si on ne peut pas faire de sport, qu'on ne peut pas travailler, il ne faut pas après dire que c'est nos maris, nos frères ou nos pères qui nous empêchent de faire les choses. Là, en l'occurrence, c'est l'État français. Moi, il y a une chose sur laquelle je suis pragmatique et honnête, c'est qu'une femme voilée, elle ne peut pas travailler dans un service public. Ça va pas de pair. Voilà, ça, en toute honnêteté, c'est pas possible.
Vous
Maintenant, dans des entreprises privées.
Vous pensez?
Je pense qu'en France, ça passera jamais. Moi, je suis très factuelle. En France, ça ne passera jamais, vu que c'est un débat. Enfin, je vous dis la vérité.
Vous êtes en train de nous dire, Rassiba, que c'est plus facile dans le privé, dans le secteur du privé.
C'est plus facile dans le privé. Et je vous assure que moi, j'ai des amis qui portent le voile, qui ont des masters, qui travaillent chez Action. Par dépit, parce qu'on veut pas les faire. Enfin, j'ai rien contre l'enseigne Action, H&M, Uniqlo, etc. Justement, ils sont pionniers dans le fait de prendre des femmes voilées, mais je comprends pas pourquoi des personnes qui ont des diplômes, qui peuvent apporter une vraie plus-value, payer des impôts à la France, qui est un pays qu'on aime et qu'on respecte, on les laisse pas juste vivre, quoi, travailler, bosser, enfin... je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt de taper sur les femmes, sachant que nous, on ne fait pas de bon, on fait pas d'appel à la, au terrorisme. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune femme voilée n'a posé une bombe en France. Enfin, moi, que je dise des conneries. Mais voilà, enfin, je le dis peut-être de manière un peu passionnée, parce que pour moi, c'est un débat passionné, mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas laisser les femmes vivre. Quoi. Voilà.
Bah, vous soulevez de véritables, évidemment, questionnements. Merci, Rassiba, d'être passé.
Je vous en prie, bonne soirée à vous.
Fait part de votre témoignage. Bonne soirée. Merci. Restez fidèles, surtout. Tiens, Samia, vous nous appelez du 93. Quelle ville du 93, Samia ?
Oui, bonsoir, Adil.
Bonsoir.
Je suis de l'île Saint-Denis. Je suis de l'île Saint-Denis.
L'île Saint-Denis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samia ?
Alors, je suis maman, je m'occupe de mes deux petites princesses. Et en même temps, je travaille au tribunal de grande instance à Port-de-Clichy.
À Port-de-Clichy. Au palais, tout simplement.
Exactement.
Ouais. Bah, c'est bien. Ça se passe bien ?
Ben écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire oui, mais autant que maghrébine, et pourtant je suis française, je suis née sur le sol français, j'ai fait également des études, j'ai un master en droit, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour rentrer dans ce monde, parce que il faut dire les choses, la discrimination, le racisme existe malheureusement en France, parce qu'il y en a plein qui disent que non, c'est nous, on fait des idées, ou je suis désolée, ça existe, c'est une réalité. On a une montée en puissance, en plus, contre les femmes aussi voilées, alors que c'est des femmes aussi qui ont fait des études. Moi, j'en connais plein, c'est des collègues d'ailleurs à moi. Je trouve ça malheureux, en fait, en République, dans un pays tel que la France, pays cosmopolite, où il y a toutes les origines. Et en fait, au lieu d'essayer de trouver quelque chose qui nous unit et qui nous rassemble, ils essayent toujours de montrer et pointer du doigt quelque chose qui nous divise. Et c'est vraiment malheureux, en fait. C'est vraiment malheureux pour moi, en tout cas.
Vous dites ça parce qu'au palais, vous l'avez vécu, ça, vous ?
Mais je l'ai vécu partout. Je travaillais dans des cabinets d'avocats avant. Et je peux vous jurer, quand je me présentais, je donnais mon CV. En fait, il fallait m'entendre parler. Il fallait que je m'impose pour qu'on me laisse accéder à certains tests pour pouvoir passer au-delà de l'entretien. Mais sinon, mon CV, il faut dire les choses. On voit Samia, en plus, la banlieue, 93... non-connotation arabe, j'ai rencontré plein de difficultés, bien sûr. Mais après, je me suis toujours imposée. Hein. Je n'ai jamais lâché, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis...
C'est terrible ce que vous dites, quand même, hein, y compris, effectivement, dans le... au sein...
Mais c'est comme ça, hein, c'est malheureux, mais notre
mais comment
pays...
on fait, comment, quand vous nous décrivez, évidemment, votre profil, comment on fait sa place, finalement ? Comment on finit par s'imposer, justement, et faire sa place, Samia ?
Jamais lâché. Il faut être ambitieux, jamais lâché, il faut avoir la niaque et il faut montrer que malgré qu'on s'appelle Samia, qu'on vient de la banlieue, mais c'est pas ça qu'il faut regarder en premier, il faut regarder ce qu'on a dans le cerveau. Moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi.
Oui, mais quand
lâché.
Vous entendez par exemple Rassiba du 92 de Royal Ma Maison, regardez, vous l'avez entendu ?
Bien
un terrible Rassiba et son témoignage. Vous lui répondez quoi sous tous ces questionnements ?
J'ai envie de lui dire de garder la tête haute. Elle est voilée, c'est un choix et d'ordre vie privée. Ça n'a aucun rapport avec la République, ni avec ses études, ni avec le domaine qu'on exerce. Ça, c'est vraiment d'ordre vie privée. J'ai envie de lui dire de continuer à se battre et de ne pas laisser l'autre gagner. Moi, ça a toujours été ma devise. Et je suis arrivée à là où je suis aujourd'hui et pourtant, on m'a mis les bâtons plus que les bâtons dans les roues. Hein. J'ai rencontré plein de difficultés. Mais j'ai toujours surpassé et j'ai toujours montré que c'est pas eux qui vont gagner, ça serait toujours moi. Ouais. Et jusqu'à présent, ça a payé.
N'ont rien lâché.
Il faut se battre. Bien sûr, nos parents, ils ont tout donné. Nous, on est la nouvelle génération et il faut absolument qu'on arrive aussi à apporter satisfaction par rapport à cela. C'est que, ok, nos parents, ils sont venus, c'était, ils ont immigré, ils ont laissé plein de choses derrière eux, leur pays d'origine, leur famille, leur richesse. Mais ils ont beaucoup donné aussi à la République. Qui paye des impôts ? C'est qui a... Comme elle a dit, il y a des travails. Moi, personnellement, je ne vois que des Maghrébins le faire. C'est des travails ingrats. Je ne vois aucun Français faire ce travail. Et après, on vient, c'est trop facile aussi de cracher. Maghrébins, personnes de couleur noire. Mais ce sont des gens aussi qui apportent beaucoup à la société.
Oui.
On apporte beaucoup, il faut voir ses bons côtés.
Merci pour ce témoignage, Samia.
Merci
très riche d'ailleurs. On voit bien,
merci
on sent le vécu.
Merci
à vous, prenez soin de vous.
Bon courage à toutes les femmes voilées et ne lâchez rien. Ne lâchez rien, c'est le message que j'ai envie de faire passer, vraiment.
Mais écoutez, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. 18h51.
Passez de belles fêtes. Absolument. Et all the best pour 2023.
Absolument, plus que jamais. Allez, passez de bonnes fêtes également.
Merci beaucoup, bonne soirée
à Adil. Le face-à-face, bonne soirée Samia, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, c'est avec Ménad Ouchéni, ancien élu, mais également aussi aujourd'hui consultant numérique. Bonsoir, Ménad.
Bonsoir, Adil. Bonsoir, Ouchéni. Tout le monde.
Au téléphone, il n'est pas avec nous sur le plateau, mais il n'est pas avec nous via les ondes téléphoniques. Bonsoir, Pierre-Henri, président de France
Bonsoir,
Fatalité.
Bonsoir, Adil.
On dirait presque que vous êtes avec nous dans le plateau. La liaison est bonne.
Je suis avec
vous
sur le plateau. Très bien, très bien.
J'aimerais qu'on aborde d'abord ce premier sujet. La guerre en Ukraine, vous savez, aujourd'hui, ça chauffe un peu parce que la visite de Zelensky, elle n'a pas fait des joyeux, notamment du côté de la Russie, avec Vladimir Poutine qui, lui, envoie un scud en disant et qu'il accuse les États-Unis et notamment Joe Biden de mener une guerre indirecte. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que le pire est à annoncer, Pierre-Henri?
Bon, d'abord, il faut dire que la visite de Zelensky aux États-Unis, New York, c'est une visite historique et qui révèle que dans l'épisode de guerre que l'Ukraine vit, le leadership des États-Unis est incontestable. C'est Dominique de Villepin qui dit qu'en réalité, la visite de Zelensky, c'est une démonstration de force. Mmh. Alors, c'est une démonstration de force pour lui. C'est chef d'État, chef de guerre, etc. Mais c'est aussi, par un effet miroir, une démonstration de force des États-Unis. Et ça dit beaucoup de l'Europe et de la place de l'Europe
absolument
dans ce conflit.
Anthony, je vous arrête tout de suite, Pierre-Henri, parce que Anthony, notre réalisateur que vous connaissez, me demande de lancer la pub. On la lance et on se retrouve tout de suite après.
On la lance alors.
Alors à tout de suite, restez avec nous justement, parce qu'il y a plein d'autres sujets aussi qu'on va traiter. Il paraît que la SNCF, là, ça avance, mais timidement. On va parler aussi des insultes, de ce racisme au foot, et on parlera aussi de l'éducation nationale. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h55, Les Informés avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, mais également aussi avec Ménad Ouchéni, consultant en numérique. Pierre-Henri, je vous redonne la parole pour parler de cette géopolitique qui se dessine avec l'axe États-Unis, Russie, Zelensky, l'Ukraine.
Oui. Et je disais surtout que auparavant, la visite de Zelensky aux États-Unis disait beaucoup de la place de l'Europe dans ce conflit. Alors, c'est vrai que l'Europe est un contributeur non négligeable à l'effort de guerre, mais la vraie question que j'ai envie de poser, c'est de savoir si cette visite projette les principaux protagonistes sur une sortie de crise. Parce qu'il y a bien un moment où il va falloir...
On n'a pas le sentiment quand on écoute. Quand on écoute Poutine, qui dit, cette déclaration concernant donc guerre... qu'est-ce qu'il dit comme mot? Guerre indirecte. Ça rassure pas quand même, hein?
Mais bien entendu que ça ne rassure pas.
On va écouter le point de vue de Ménad Ouchéni, Pierre-Henri.
Mon point de vue, il est assez simple, Adil, c'est qu'en termes de guerre indirecte, Vladimir Poutine sait de quoi il parle. Quand on voit tout ce qui se passe effectivement en Afrique, par exemple, où il agite la France-Afrique comme un épouvantail pour créer la Russe-Afrique, c'est pas forcément des troupes russes qu'on retrouve dans certains endroits du Sahel, c'est Wagner. Si c'est pas ça une guerre indirecte, je sais pas ce que c'est. Et puis il y a d'autres fronts de guerre comme celui de l'information. Je vais citer deux exemples. Le premier, c'est Russia Today, cette chaîne largement financée par la Russie. Est-ce que c'est pas aussi une guerre de l'information? Même, j'irais même pas indirect sur ce coup-là, puisque c'est quasiment revendiqué, un peu moins revendiqué avec d'autres médias tels que Sputnik. Et puis récemment, j'ai vu aussi de la propagande russe sur la reconstruction de Mariupol, une de ces villes qu'ils ont réussi à garder, tant bien que mal, où ils reconstruisent physiquement des immeubles qu'ils ont eux-mêmes détruits. Donc on est aussi sur de la guerre d'information, mais qui a dû commencer par une guerre tout court. Donc guerre indirecte, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais comme diraient les enfants, c'est celui qui dit qui est.
Un sujet aussi qui nous concerne, vous savez quoi? C'est dans quelques jours. Il y a les usagers, les voyageurs qui sont extrêmement inquiets, mais pas que inquiets, Pierre-Henri et Ménad Ouchéni. Ils sont en colère. Ils sont en colère et notamment pour cause, parce qu'ils veulent aller retrouver leur famille pour fêter les fêtes de fin d'année, notamment Noël et la fin de l'année. Alors Olivier Véran, il demande aux grévistes, et il a fait une demande très très claire, hein, de renoncer et d'entendre la demande légitime des Français. Dites-moi. Mela Douchenir a ensuite Pierre Henry.
Alors, Olivier,
est-ce qu'ils vont trouver une issue de solution?
Moi, je n'appelle pas ça une grève, j'appelle ça une levée de fonds. Clairement, une grève, ça vise à faire avancer des droits, ou en tout cas conserver des acquis, etc. C'est des gens qui veulent un peu plus d'argent. Alors, c'est la période, je sais, l'inflation, tout ça, mais moi, mon point de vue sur les grèves, j'ai déjà donné ici, surtout quand ça concerne la SNCF. Pourquoi, chers amis cheminots, n'allez-vous pas vers des grèves de la gratuité? Vous ouvrez les TGV à tout le monde, c'est gratuit. Exactement. Les gens peuvent aller voir leur famille. Et là, ça fera du mal à votre direction, ça fera du mal aux finances de votre direction, et pas empêcher des gens d'aller se réunir avec leur famille, parce que l'année dernière, c'était le Covid, l'année d'avant, c'était le Covid. Entre-temps, on a eu d'autres grèves, on avait eu des gilets jaunes depuis...
Ils n'ont pas vu 2018, leur famille depuis 2019. 3 ans, certains.
Et là, ils nous rajoutent une louche. Donc, c'est une levée de fonds, ni plus ni moins. C'est pas une grève, en plus, menée par un collectif, donc il y a des collectifs, non, on a les syndicats, on a sinon les collectifs à la SNCF. Et puis pour ce qui est du gouvernement, pardon, mais je vais les renvoyer deux à dos avec la SNCF et les grévistes. Olivier Véran, moi je l'ai vu, hein, j'ai vu ce matin son débrief là du Conseil des ministres, hier plutôt. La question est la suivante, soit vous réquisitionnez, soit vous réquisitionnez pas, mais demander à des gens de relancer un droit de grève, c'est pas...
Alors justement, on a l'extrait, je donne la parole à Pierre-Henri. On a l'extrait justement de la déclaration du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Écoutez.
Des centaines de personnes regroupées au sein d'un collectif anonyme, non porté par des centrales syndicales nationales, privées des centaines de milliers de nos compatriotes de la capacité de retrouver comme ils le souhaitaient, comme ils y espéraient tout à fait logiquement, leur famille pour les fêtes de Noël, et ce, après des hivers qui étaient déjà éprouvants, cette fois-ci en raison de la pandémie de Covid-19. Nous demandons à l'ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève, de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé, d'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaires conséquentes ont déjà été annoncées et, pour certaines d'entre elles, mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille.
Et puis, je tiens à le dire, avant de donner la parole à Emmanuel Macron, à Pierre-Henri, Emmanuel Macron, justement, il a poussé un coup de colère. A-t-il eu raison, Pierre-Henri?
Le problème, il est d'abord de savoir ce qui se passe à la SNCF, ce fameux collectif anonyme, qui est-il en réalité et qu'est-ce que ça révèle comme fracture syndicale, parce que c'est manifestement des radicaux qui ont décidé de mener cette grève à Noël en sachant très bien, d'ailleurs, qu'elle serait particulièrement impopulaire. Mmh. Quant au gouvernement, appeler ces personnes à la négociation, c'est une adresse en pure perte. Parce que, de ce point de vue, ils ne bougeront pas.
Mais quand Emmanuel Macron se dit excédé, il se dit qu'il veut réfléchir à un cadre pour assurer la continuité, ça peut fonctionner,
oui,
ça?
Ben oui.
C'est pas un peu trop tard? Mais on n'intervient pas toujours dans l'urgence, c'est pas un peu trop tard, n'est-ce pas un peu trop tard?
Mais attendez, la grève, c'est le droit de grève, c'est un droit constitutionnel.
Mais pas le jour de Noël, pas le jour des fêtes.
Non, c'est un droit constitutionnel.
Je vous l'accorde.
Je vous rappelle que la
en Italie, par exemple, Pierre-Henri, en Italie, oui, vous savez qu'on interdit de faire grève pendant les jours de fête. Voilà.
Oui. Mais oui, je sais, il y a un cadre qui est différent.
Bah, peut-être qu'il faut réfléchir à un cadre.
Celui-ci se négocie manifestement. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut faire attention à l'ordre de réquisition. L'ordre de réquisition des personnels, par exemple, ça ne peut avoir lieu qu'en cas de troubles graves à l'ordre public. On l'a vu dernièrement lorsqu'il y avait des pénuries d'essence. Voilà.
Donc le fait que le chef de l'État hausse le ton, ça peut changer?
Non. Qu'il y ait une négociation à un moment donné et que dans l'État où se trouve le pays, il y ait une poussée véritable pour encadrer le droit de grève, je ne serais pas très étonné. Mais attention à ne pas remettre en cause
un droit fondamental dont certains...
Non, mais on le... Non, la question, c'est pas de remettre en cause Pierre-Henri. C'est simplement, vous savez ce qu'il dit Macron, le chef de l'État, Emmanuel Macron, il dit, parce que sa colère, elle vient d'où ? Il dit, il y a une absence totale d'empathie pour les usagers et les voyageurs. Oui. Franchement, moi, je suis d'accord.
Mais j'entends parfaitement, moi.
Vous avez des familles hier, moi, qui ont témoigné ici, qui ont défilé sur notre antenne, qui ont dit, on n'a pas vu nos familles pendant 3 ans, 4 ans.
Oui, mais j'entends.
Donc on les condamne.
Et la proposition qui vient d'être faite sur votre plateau me paraît tout à fait pertinente, intelligente. Et effectivement, si vous voulez faire grève, eh bien ouvrez les TGV et rendez la gratuité, ce qui effectivement posera des problèmes à la direction. Au passage, cette grève, elle est quand même chiffrée à près de 100 millions d'euros. Mmh. Donc elle coûte cher à la compagnie. Et si elle coûte cher à la compagnie, elle coûte cher aussi aux usagers et aux contribuables. Voilà. Donc il est clair que ça ne peut pas continuer comme ça.
Bah non. Sauf que là, il faut trouver une solution. On est à quelques jours. Les quelques jours, c'est ce week-end. Ouais, Ménade Ouchenir.
Et les solutions sur lesquelles se rabattent les usagers, c'est l'avion. Alors, en plus, on a un début
de contrôleur. Ah oui, pour le coup, les avions cartonnent.
Ou la voiture. Oui.
Vous avez également la voiture.
L'avion trouve un succès en ce moment.
La voiture et le bus, donc que des moyens, vraisemblablement plus polluants que des trains. Donc là aussi, moi je veux bien entendre la SNCF nous faire des longs et beaux discours sur leur politique en matière de réduction de CO2. Je ne pense pas que ça va être plus écolo de renvoyer tout le monde vers leur véhicule thermique
pour faire ces longues distances. Non plus. C'est pas ce qu'ils font. La SNCF est invitée à négocier la direction... de la SNCF est invitée à négocier, il faut qu'elle le fasse et qu'elle rende public en réalité ce sur quoi porte la négociation. Quelle est la revendication du collectif?
C'est une levée de fonds, ils veulent des revendications salariales.
Mais là, vous répondez, Pierre-Henri, vous dites que c'est une levée de fonds.
C'est des revendications. Alors, c'est une levée de fonds, c'est mon terme. J'ai sciemment choisi un peu provocateur. Mais c'est effectivement, ils demandent une revalorisation de leur salaire. Ce qui parle des temps qui courent est une demande légitime. C'est le fait de s'en prendre aux usagers qui, selon moi, est en ces temps inadmissible. Et puis de l'autre côté, le gouvernement qui naturellement fait levier là-dessus pour passer pour le gentil, le gouvernement, il a des outils qui s'appellent les réquisitions notamment, ou certaines pénalités qu'il active.
C'est des leviers il vous répond Pierre-Henri.
La réquisition, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Quand vous avez un pays qui est bloqué en termes économiques, comme la grève, l'approvisionnement en essence, en gasoil, effectivement, mais là, il y a des moyens alternatifs, vous ne pouvez pas employer la réquisition à tout bout de champ. Donc, la solution n'est pas celle-là.
Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de travailler sur ce qu'il a nommé... un cadre pour effectivement que certains vont condamner en disant que c'est un recul du droit de grève comme ce qu'a évoqué Adil à l'instant sur certains de nos voisins européens qui interdisent les grèves certains jours. Pourquoi pas, parce que effectivement dans ce contexte là moi ça me paraît, surtout en ce moment des périodes où socialement très compliqué, économiquement très compliqué, c'est pas le moment en plus d'aller taper sur la vie de famille des Français et puis de toutes les personnes qui vivent dans le pays. En revanche, moi je suis effectivement très curieux de savoir ce que le gouvernement va proposer en termes de cadre, parce que là aussi j'entends souvent remise en question du droit de grève. Non, en revanche une forme de je vais pas dire limitation du droit de grève, mais de revue du droit. C'est pas binaire, c'est pas tout ou rien. Mais il y a, je pense, certains jours qui nécessiteraient effectivement que la grève soit d'une manière ou d'une autre proscrite, parce que ce n'est pas le service minimum
J'ai une info qui vient de tomber, c'est que Poutine veut que le conflit se termine le plus tôt possible. Dépêche AFP.
Je ne suis pas... Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ce voyage de Zelensky à New York peut aussi signifier que tout le monde se projette sur la sortie de crise. Ce n'est pas impossible. Le problème, c'est après la sortie de crise, que se passe-t-il ? D'abord, il y a des enjeux économiques qui reconstruisent. Quand Emmanuel Macron dit « Je voudrais bien que ce ne soit pas que la Chine et la Turquie et les États-Unis qui parlent du premier jour de l'après », il se situe dans cette perspective de reconstruction. Et puis, il y a une autre question qui est celle d'un nouvel ordre. quand les États-Unis disent on va vous fournir des missiles Patriot pour sécuriser l'aérien, ça peut aussi signifier que ça, c'est pour la suite. C'est pour la suite et la véritable question, c'est effectivement celle des conditions d'une sortie de crise.
Absolument.
Où en est-on aujourd'hui ?
Messieurs.
Franchement, ça doit bouillonner dans les chancelleries.
Dans les chancelleries, autre sujet, vous savez quoi, qui continue de faire polémique, c'est ce... alors, à la fois, ces insultes, hein, photos brûlées, nouveau dérapage de Martinez, hein, le gardien du joueur donc, de l'Argentine. On l'a vu à plusieurs reprises, hein, avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé, cercueil, photos brûlées. Pourquoi les Argentins, aujourd'hui, si vous voulez, s'acharnent hein, clairement sur Mbappé. Et puis, ces histoires de racisme. Vous savez que la Fédération Française de Football va porter plainte après des injures racistes visant les quelques joueurs de l'équipe de France. Pierre-Henri.
Écoutez, le comportement du individuel du gardien de but de l'équipe d'Argentine, Martinez, est vraiment le comportement d'un voyou. Il ne donne manifestement pas l'exemple à un certain nombre de fans de football. Après, on sait aussi le caractère déraisonnable qu'il peut y avoir autour de la célébration de la Coupe du Monde. Écoutez, il y avait 4 à 5 millions de personnes, soit 10% de l'Argentine, qui étaient dans les rues pour manifester leur joie au retour de l'équipe d'Argentine. Vous savez que le car n'a même pas pu rentrer dans la capitale. Ensuite, évidemment que les insultes qui sont celles et qui sont finalement acceptées, y compris par un type comme Messi, à l'égard des joueurs français, sont effectivement insupportables. Comme sont insupportables,
c'est insupportable.
Les commentaires qu'ont cru devoir adresser un certain nombre de soi-disant fans de football aux personnes qui ont une supposée origine étrangère et qui en réalité se font stigmatiser uniquement pour leur couleur de peau. Donc le football, sport de masse, draine aussi un certain nombre d'imbéciles. Il faut aujourd'hui le dire et combattre dans le football comme partout ailleurs le racisme dès qu'il se manifeste.
Sauf que là, les supporters, ils versent dans le racisme, hein, Mélade Chénier.
Bah, si j'étais Emiliano Martinez, je ne la ramènerais pas parce qu'il s'est pris 4 buts par Kylian Mbappé.
Exact.
Déjà. Factuellement, c'est vérifiable. Hein, je pense qu'on était quelques millions devant la télé, on l'a tous vu.
C'est quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'il est vexé.
Mais c'est là que je veux en venir.
D'accord.
Mais comme quoi, c'est évident. Il s'en est pris 4. Kylian, il y en a mis 4. Je pense qu'on mettra dans le futur, puisque il est gardien d'Aston Villa. Il va retourner en Angleterre, donc dans son club. Mais il est aussi connu, parce que je le connaissais pas avant. Je l'ai découvert quand il a porté le trophée qu'il avait été remis à la fin du match là, au niveau de ses hanches, pour pas dire ailleurs, en me demandant ce qui lui est arrivé. Je pensais qu'il faisait une syncope, un truc. Non, c'était une pitrerie. Et ces pitreries, elles sont connues, puisqu'il avait fait d'autres. Il est connu pour ses pitreries, notamment à la Copa América au Brésil. Mais moi, il y en a un autre aussi dont je suis très curieux de voir quelle sera la réaction, c'est un certain Léo Messi.
Exactement.
Parce qu'il va retrouver son copain Kylian.
Après ses actes nauséabonds.
Sur les bancs du PSG, où il a fêté avec quelques semaines avant, il aura fêté, ou quelques mois avant, avec ses copains de l'Albi Céleste, comme on dit, la sélection argentine, de manière de manière très provocatrice. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont se dire, ou ce qu'ils vont pas se dire, justement. Les conséquences des agissements du goal argentin. Mais ce trophée qu'on lui a donné comme étant le meilleur goal, etc., à mon avis, là aussi, peut-être à mon humble niveau, mais j'encouragerais la FIFA à peut-être réfléchir à le conserver ou en tout cas confirmer ou pas ou infirmer sa décision, puisque on peut pas être le bon goal. Ce que je dirais en conclusion, c'est que si l'Argentine a gagné la finale de cette Coupe du Monde, aux yeux du monde, elle n'en est pas la championne.
Vous savez quoi, je vais juste marquer une courte pause et on se retrouve avec la dernière ligne droite. On parlera aussi de ce racisme, vous savez quoi, parce que je veux vraiment qu'on en parle, parce que le gouvernement, il a réagi. Il condamne les insultes racistes visant certains bleus. On parle de deux qualificatifs honteux, insupportables, mais est-ce que finalement la fédération de football qui va porter plainte après ces injures, est-ce que ça suffit? C'est la question que je vous poserai. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 19h16, dernière ligne droite, les informés avec Ménad Ouchénir, les informés avec Pierre-Henri qui est avec nous en ligne téléphonique. Justement, je voudrais qu'on revienne sur la Fédération du football. Finalement, est-ce que ça suffit de porter plainte concernant les injures? Parce que ça va loin quand même ces histoires-là, hein, Pierre-Henri?
Oui, mais je rappelle que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc le délit, il se règle devant les tribunaux. Il se règle au pénal. Et puis...
Vous avez lu ce qui se dit, quand même?
Oui.
Vous avez lu? Comment les Argentins, les joueurs argentins, comment ils insultent les trois joueurs français? C'est violent, quand même, hein?
Mais évidemment, mais attendez, il n'y a pas que...
Je ne peux pas le dire à l'antenne, mais c'est violent.
C'est très violent.
Oui, mais il n'y a pas que les Argentins qui, en l'occurrence, traitent les joueurs de l'équipe de France d'une manière insupportable. Vous avez aussi des supporters de football, des 10 supporters de football en France qui insultent un certain nombre de joueurs qui, par exemple, ont raté le pénalty lors de la séance finale de la Coupe du Monde. Et ils sont parfaitement français, ceux-là. Mmh. Et donc, que la Fédération française de football veuille porter plainte contre celle d'Argentine, mais ça n'ira pas très loin. Ça, c'est du folklore. Par contre, ce que nous devons d'abord faire, c'est nettoyer nos propres écuries, si j'ose dire, et faire en sorte que les stades de football soit débarrassé de ces imbéciles. Oui. Et donc, oui, je pense que la Fédération française de football doit traduire devant les tribunaux toute personne qui se rend dans un stade coupable d'actes racistes. Et puis, oui, aller plus loin, les interdire de stade. Mmh. Voilà.
Exactement.
Le reste, au sein de la FIFA, c'est une autre affaire. Ça n'ira pas très loin.
Mais comment on peut interdire aux joueurs argentins de le stade, justement? Parce que là, il s'agit de joueurs argentins. Ménad.
Il y a quelque chose qui marche bien, d'une manière générale, c'est de taper au portefeuille. Mmh. Voilà, tout simplement. Des pénalités financières.
Alors, exactement.
Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, de s'excuser publiquement, etc. En général, ils font écrire quelque chose par leur agent ou leur avocat, qu'ils lisent ou qu'ils publient simplement sur les réseaux sociaux. Ça, on ne sait pas vraiment si c'est sincère. En revanche, vous tapez au portefeuille. Vous mettez en place des sanctions qui pénalisent financièrement soit le club ou le joueur ou l'entourage. Ou les mêmes. Il y a aussi un autre levier qu'on n'a pas évoqué. On parle de la FIFA, on parle des États et de la justice, mais les sponsors, les partenaires, les annonceurs, les marques qui ont des contrats avec ces joueurs, c'est peut-être aussi vers elles qu'il faut se retourner et de dire, bah, écoutez, vous avez signé avec ce joueur-là qui se balade avec une poupée et la tête de quelqu'un ou qui a proféré des injures à caractère raciste, est-ce que c'est les valeurs de la marque? Donc quand on tape au portefeuille, ça marche. Moi, je suis pragmatique, hein, bien oui. sûr, c'est un délit.
Il n'a pas tort. Comment vous réagissez, Pierre-Henri?
Justice, mais portefeuille.
Non, mais...
Le portefeuille, c'est pas mal, ça, hein.
Oui, mais ça veut dire, en réalité, sanctionner les clubs, aux clubs ensuite, de prendre leur propre responsabilité à l'égard des joueurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. La plupart, en tout cas pour tous ceux qui sont en Europe, les joueurs argentins, il y en a un certain nombre qui sont en Europe et qui banalisent ces actes. Eh bien, il faut leur demander de rendre des comptes. Et je pense qu'il faut effectivement le faire par l'intermédiaire de leur club.
Oui.
Il faut avoir un comportement exemplaire du joueur, du spectateur, et puis évidemment des dirigeants aussi. Parce que je ne suis pas certain que dans le passé, il n'y ait pas eu quelques comportements douteux au sein même de l'équipe de France à l'égard par exemple, du Ballon d'Or.
Vous avez raison. Effectivement, très juste. Allez, je voudrais qu'on parle de ce sujet qui est le dernier sujet qui a retenu notre attention. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a réitéré aujourd'hui dans une tribune, justement publiée dans le journal Le Monde, ses priorités pour l'école. Notamment, il parle d'égalité des chances. Le niveau d'ensemble baisse, mais il baisse depuis 30 ans, mon cher Pierre-Henri. Est-ce qu'on peut être inquiet, justement, sur les priorités qu'attendent l'école ?
Non, mais c'est un chantier permanent, l'école. C'est récurrent. On nous dit en permanence que le niveau baisse, et si on regarde les comparaisons au sein de l'Union européenne, nous ne sommes pas toujours très bien placés en ce qui concerne l'acquisition des savoirs de base. Bon, ça passe par quoi ? Ça passe évidemment par une revalorisation du métier d'enseignant. Je crois que ça, c'est un chantier qui a déjà été mis en place. Et puis, ça passe par une réflexion, évidemment, sur les rythmes.
Mais son plan d'action pour réformer l'école, est-ce que ça suffit, Pierre-Henri ?
Parce que
là, on parle de réforme, là. Hein ?
Oui, oui, mais de toute façon, c'est un énorme chantier. Ça ne va pas se faire en deux jours. Donc, qu'il s'attaque à ce chantier après que d'autres ministres l'aient dit également. Ça veut dire des moyens. Ça veut dire des moyens et ça veut dire sans doute des réformes de structure. Je vous dirais aussi que moi, je ne suis pas adepte l'idée selon laquelle c'était mieux auparavant. Il y a d'autres savoirs, il y a des modifications dans les apprentissages aujourd'hui.
Ménade souhaite réagir à vos propos parce qu'il n'est pas du tout d'accord.
Alors,
si vous me permettez, je vous interromps quelques secondes. Ménade.
Pas du tout d'accord, je dirais pas ça comme ça, mais Pape Ndiaye, il est là pour encore maximum 4 ans et demi.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose en 4 ans et demi ?
S'il
n'y a pas de dissolution, s'il n'y a pas de remaniement, s'il n'y a pas tout ça.
Donc,
grand maximum, il est pas là forcément très longtemps. Donc, ce qu'il peut faire, c'est effectivement agir sur le très court terme. Et là où je rejoins un peu, où je rejoins même complètement ce que dit Pierre-Henri, il parle de revalorisation du métier. C'est pas normal qu'un enseignant en début de carrière touche à peine le SMIC ou un peu plus que le SMIC. Je ne dis pas qu'il s'agit d'en revenir au hussard noir de la République.
Non, c'est vrai, on est prof.
Mais c'est-à-dire qu'on paye mal, formellement, on paye mal les personnes chargées d'enseigner à la jeune génération qui est censée, par la suite, continuer, prendre le relais, de continuer à construire le pays. Donc, premier point, ça, Pape Ndiaye peut le faire dans sa présence. Après, refondre les programmes, les compétences de base, etc., ça, c'est un chantier, effectivement, titanesque, qu'il s'agit, effectivement, de pouvoir mener sur, facile, une décennie, voire deux. Est-ce que, je me demande même, est-ce que c'est le gouvernement le mieux placé pour mener ce genre de réforme ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire à côté éducation nationale, d'avoir... Et là, on parle vraiment de réforme et de réorganisation, de toute façon, à ce que les programmes puissent être suivis au long cours. Mais je suis sûr, en tout cas, que le début, je n'ai pas la fin de la solution, mais je suis sûr que le début commence par revaloriser le salaire des enseignants, revaloriser le métier.
C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Henri ?
De la communauté éducative.
Parce que là, il parle de va favoriser la mixité, il parle d'égalité des chances, il parle d'une...
Commencez par mieux payer les profs.
Est-ce que vous pensez qu'il parle d'injustice, la défiance, est-ce que ça commence pas... Et il parle aussi de colère, de classe populaire. Est-ce que ça commence pas tout simplement par la revalorisation des salaires, mon cher Pierre-Henri ?
Oui, mais ce n'est pas... Il n'y a pas que cela. Il y a aussi un rapport à l'autorité, il y a un rapport au savoir qui est profondément... qui s'est profondément modifié dans les 10-20 dernières années, qu'on l'accepte ou qu'on le regrette, c'est un fait. Et donc, ça amène des postures, y compris des familles, parfois très compliquées par rapport à l'acquisition d'un certain nombre de savoir. Mais il est vrai que le métier d'enseignant, qui est un des plus beaux métiers, doit être valorisé. Et effectivement,
quand il se lève comment, franchement, la priorité des priorités. C'est-à-dire que c'est vrai, on ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui, un enseignant soit payé quasiment comme un SMIC, quoi. Comment voulez-vous ensuite à ça qu'il soit à l'aise dans les chantiers que le ministre de l'Éducation nationale compte entreprendre ?
J'avoue que moi j'ai été stupéfait de la méthode de recrutement dernièrement pour pallier au manque d'enseignants et à la crise de vocation, si j'ose dire, qui s'est manifestée dans le pays, parce que c'est difficile d'enseigner, ça demande du boulot et ça demande un travail formidable.
J'en connais quelques-uns et effectivement c'est éprouvant.
Absolument.
Oui, c'est éprouvant. Et la méthode par laquelle on a recruté quelques enseignants dernièrement est véritablement étonnante. Donc, la revalorisation, évidemment, qui vient sanctionner d'ailleurs un parcours académique souvent extrêmement long, important, etc. Oui, c'est une première chose. Après, l'école aujourd'hui, l'apprentissage... Ne sera pas identique à ce que nous avons connu hier. Parce que.
Ménad vous répond, il a dit qu'on a changé d'époque. Ménad ou Chénier ?
Oui, effectivement, on a changé d'époque aujourd'hui. Contrairement à il y a quelques décennies encore, l'enseignant n'a plus entre guillemets, le monopole justement de l'enseignement et du savoir. Aujourd'hui, n'importe qui avec une connexion Internet, sans enseignant, peut se former à peu près tout. Et sur des sujets délicats comme par exemple l'histoire, on a parfois une multitude de sources qui fait qu'on a toujours besoin des enseignants pour objectiver cette connaissance-là. Ouais. Donc, à mon sens, effectivement, les premiers coups, pour moi, les premiers sujets, effectivement, c'est la revalorisation du salaire, mais également même la fonction même de l'enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes de 2022 ressemblent de manière à s'y méprendre aux classes des années 60, 70, 50. C'est un enseignant devant... 25, 35, voire plus d'élèves, avec des sonneries qui vous disent à quelle heure on commence, à quelle heure on termine, à quelle heure on va manger. Il faut lever la main pour demander à aller aux toilettes, etc. Il faut peut-être aussi changer. Et là, c'est méthodologique. Je ne parle même pas des programmes, je ne parle même pas du fond. Je parle des méthodologies et la manière dont on enseigne. C'est ça aussi, ça fait partie des chantiers. Et là, il y a quelque chose dont on a peur, effectivement, d'avoir recours en France, c'est l'expérimentation. Parce que par endroit, alors il y avait l'école du futur à Marseille, hein, ça serait curieux de savoir où ça en est actuellement, mais il y a des endroits, effectivement, où on peut aller vers de l'expérimentation et voir comment ça se passe. On peut aussi regarder ce qui se passe chez nos voisins, en Scandinavie, en Allemagne, qui sont nettement mieux payés, mais qui font beaucoup plus de choses que l'enseigner.
Merci Ménad Ouchénière, conseiller en numérique, mais également aussi ancien élu.
À Rosny-sous-Bois.
Absolument, Rosny-sous-Bois. Merci Ménad, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
De même Adil, et ainsi qu'à toute l'équipe côté Beurre FM.
On se retrouve à la rentrée.
À la rentrée avec plaisir.
Pierre-Henri, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, mon cher Pierre-Henri.
Merci Adil.
Rappelons le programme qui est diffusé, que vous animez, qui est diffusé le week-end. Rappelez-nous, c'est à quelle heure et
Un pays en débat, c'est tous les samedis, tous les dimanches à 8h20. Et si vous voulez connaître l'actualité d'un pays, sa position à l'égard des libertés publiques, eh bien vous nous retrouvez sur Beurre FM tous les samedis et dimanches à 8h20.
Merci.
Et bonne fête à tous les auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Merci, bonne fête aussi. Et on se retrouve à la rentrée alors, avec autant de plaisir.
À très vite, Adil, évidemment.
À très vite. Prenez soin de vous, mon cher Pierre-Henri, président, le président de France Fraternité. Bilal Lehmann, c'est Tam Sport.
Bonjour, comment ça va, Adil ?
Mais moi, je vais très bien. Et toi ?
Ah ben moi, ça va très bien.
Quel est le programme qui est annoncé ce soir ?
On va parler du président de la Fédération Française de Football qui aimerait boucler l'épisode de Didier Deschamps. Oui, à la tête encore de l'équipe de France.
Qu'est-ce que tu captes ? Qu'est-ce que tu sens ?
Ah ben moi, je sentirais d'avoir un changement à la FFF et aussi sur le banc. Et ouais,
fini le Gret.
Fini le Gret, maître du Wenger ou Olas, et avec un Zidane.
Olas ?
Ouais, pourquoi
président
pas. Président ? Bien sûr, pourquoi pas.
Olas, c'est le boss, Olas.
Ouais, ben bien sûr.
Olas, c'est le boss.
Ça ferait du bien. Ça ferait du bien aussi.
Oh, mais je crois que Deschamps, il se voit pas président.
Ben non, il se voit pas. Vraiment pas.
C'est vrai ?
Non, il se voit vraiment pas.
Il se voit pas président.
Président.
On le disait qu'il se voyait président, lui. Donc il va retourner à la Juventus, alors.
Non.
Il se voit où, alors ?
Ben je veux. À la tête encore. À la tête.
Il se voit encore sélectionneur.
À la tête. Aïe.
Ouais, je vois Zizou, moi, non ?
Zizou, ça serait pas mal.
Ce serait bien. Hein.
Le binôme, franchement, le binôme. Olas, Zizou.
Ça a de la gueule. Ou Wenger, Zizou, ça a de la gueule.
Ah, Wenger, c'est le boss, Wenger.
Ben oui, ça serait pas mal.
Wenger, c'est encore mieux, je dirais.
Ouais. Ah, moi, je préfère Olas.
Arsène Wenger. Non, ouais. Arsène Wenger, c'est le boss. Moi, je préfère, j'ai une préférence pour Arsène Wenger.
Il est pas mal, Wenger.
Avec ouais. Zizou. Pouah, quel ça programme qui nous attend.
Ah ben voilà, on va parler aussi de Lewis Hamilton, qui revient à la charge hein, pour défendre en soutien à Tchouaméni. Et sans oublier Colomboigny aussi, les internationaux
français. Quel programme chargé qui vous attend jusqu'à 21h. Ensuite, c'est Vanessa. Merci à la réalisation, à Anthony. On se retrouve demain pour la der de la semaine avant de se reposer nous aussi, toute la semaine prochaine. Et bien, à demain avec autant de plaisir. Mais d'ici là, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.